franceinter.fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, manger moins pour vivre mieux, c'est ce que démontre en tout cas une récente étude publiée dans Communication Biology et réalisée par des chercheurs du CNRS et du Muséum d'Histoire Naturelle autour des lémuriens. Étude importante sortie hier puisque jusqu'ici, l'effet de la restriction calorique sur la longévité n'avait pas été démontré chez les primates, Catherine de Copé.
Et pour en parler avec nous dans ce studio, l'une des signataires de cette étude, biologiste et directrice de recherche au CNRS, Fabienne Ojard, bonjour.
Bonjour.
Alors vos travaux portent principalement sur la question du vieillissement. Et dans cette étude, vous vous êtes intéressé au microcèbe, qui est donc une espèce de lémurien qu'on trouve principalement à Madagascar. Vous les avez observés pendant une dizaine d'années en en mettant certains au régime. On peut résumer les choses comme cela ?
Oui, oui, tout à fait. Donc nous avons voulu tester l'effet de la restriction calorique chronique, c'est-à-dire manger moins tous les jours, sur les paramètres de vieillissement et la longévité chez ce primate.
Est-ce que vous pouvez nous décrire l'expérience ? Vous avez pris deux groupes d'individus. Alors il faut savoir que vous avez une colonie dans votre laboratoire à Brunois de cette espèce de microcèbe.
Oui, à Brunois nous avons une colonie de longue date. On maîtrise bien la biologie de cet animal.
Et, à nous quoi avons... il ressemble d'abord ce petit lémurien pour le décrire ?
Oui, alors c'est un petit singe qui fait à peu près 100 grammes, hein, donc ça tient dans la main. Il est gris-brun, c'est un animal nocturne, il n'a pas des couleurs très, très vives, et il a une longue queue, il marche à quatre pattes.
Mmh. Alors vous avez pris deux groupes d'individus, certains au régime et certains qui mangeaient normalement. Est-ce que vous pouvez nous décrire en fait le processus de l'expérience ?
Alors après avoir pu valider la ration normale pour un microcèbe et valider aussi les paramètres qu'on a voulu suivre tout au long de la vie des animaux, on a pris des animaux qui avaient 3 ans, donc ils étaient à l'âge adulte. On n'a pas voulu tester ça sur des animaux qui étaient en croissance. Mmh. Et c'est un animal qui vit une dizaine d'années, donc on avait la possibilité sur une vie de chercheur au moins,
oui,
de
ça.
Pouvoir tester l'effet et aller jusqu'au bout de cette expérience.
Ça, c'est le gros avantage, évidemment, c'est qu'on peut étudier le phénomène de la naissance jusqu'à la mort d'un individu, ce qu'on ne peut pas faire quasiment chez l'homme.
Alors, ni chez l'homme, ni chez des grands primates, comme des babouins ou des chimpanzés, qui vivent 40 ou 50 ans.
Alors, en laboratoire, Fabienne Ojard, vous reproduisez, dans la mesure du possible, l'alimentation naturelle de ces lémuriens, avec des pommes, des bananes, et vous m'aviez même parlé de mélange protéique, à base d'œufs et de fromage blanc. Quel c'est le résultat de cette expérience? Le résultat le plus important, c'est la longévité qui progresse chez les animaux au régime?
Alors, on a pu démontrer que les animaux qui étaient au régime vivaient plus longtemps que les animaux qui étaient soumis à une nourriture normale, enfin une ration normale. Mmh. Et ça a pu se voir dès ce qu'on appelle la demi-vie, c'est-à-dire l'âge où la moitié du groupe est décédée. Et on a encore donc la moitié vivante. Et cet âge a été très reculé, c'est-à-dire que les animaux contrôle ont vécu, avaient cette demi-vie à 6 ans, et les animaux qui étaient au régime ont atteint cette demi-vie à 9 ans.
Donc on a presque doublé en fait l'augmentation de, la durée de vie, l'espérance de vie avec ce régime.
Alors cette durée de vie a été augmentée d'une fois et demie. Et en plus, on a eu le décès de tous les animaux qui étaient sous ration normale, qui sont tous morts de leur belle mort, alors qu'on avait encore un tiers du groupe au régime qui était encore vivant.
Ouais. Et sur la fin de vie, alors vous disiez à peu près c'est une dizaine d'années la longévité normale d'un lémurien. Et
oui,
donc ceux qui ont fait le régime strict ont vécu combien de temps ?
Eh ben, donc au moment de notre publication, on a encore donc un tiers des animaux qui sont vivants.
Ah oui,
ils ont 12 ans,
ils
continuent à vivre, alors que le groupe entier a atteint sa durée de vie maximale.
Alors l'autre résultat important et complémentaire, c'est que les microcèbes légèrement privés de nourriture vieillissent aussi en meilleure santé. Alors comment vous avez pu l'observer, Fabienne Ojard ?
Alors tout à fait, ça c'est un des résultats également très positifs de notre étude. Nous avons suivi des paramètres qui sont liés au vieillissement, comme la régulation du glucose, c'est donc le sucre dans le sang, qui est un signe de prédiabète. On observe ça chez les lémuriens, comme on peut l'observer chez l'homme. Et ces paramètres ont été maintenus à un stade d'adulte beaucoup plus longtemps chez les individus au régime.
Concrètement, le régime consistait en quoi alors ? Vous avez baissé de quelle proportion en fait la nourriture de ces lémuriens ?
Alors, on a baissé de 30% la ration des animaux.
Ah oui, quand même.
Mais ce qui est important, c'est que on a maintenu à l'équilibre tous les nutriments. C'est-à-dire que c'était une restriction qui était purement quantitative, mais qui n'agissait pas sur un nutriment ou un autre.
Alors, les animaux au régime ont développé aussi moins de cancers et pour autant ont gardé toutes leurs capacités motrices, cognitives. Donc finalement, ils sont morts assez jeunes, finalement, physiquement, si on peut dire.
Alors c'est vrai, on était contents de voir que ces paramètres cognitifs et moteurs étaient préservés, ce qui nous permettait d'être rassurés sur les performances des animaux, l'état de santé, et de pouvoir dire que le nombre de calories qu'ils ingéraient était suffisant pour leur bon fonctionnement.
Évidemment, on a envie de vous demander, devant tel résultat, s'ils peuvent se transposer à d'autres espèces ou à d'autres animaux, l'homme notamment. Et comment inférer de ces résultats pour l'homme aujourd'hui ?
Alors, le fait de démontrer cela chez un primate, ça nous rapproche de la physiologie de l'homme. Bon, il y a des études qui ont été faites sur des macaques aux États-Unis, mais qui n'étaient pas allées jusqu'à la longévité maximale. Donc maintenant, on a de meilleures indications sur le fait que cette restriction fonctionne chez les primates.
Ça, c'est la première fois qu'on obtient ce résultat, justement.
Oui, d'arriver jusqu'au bout de l'étude et d'atteindre la longévité maximale et de pouvoir donc attester de cet effet, c'est la première fois chez un primate.
Et pour le passage à l'homme, alors ?
Alors, pour le passage à l'homme, alors bien évidemment, c'est des choses qu'il faut prendre avec précaution, hein, mais il y a des choses à voir au niveau de l'alimentation. On peut dire que l'alimentation joue un rôle dans le processus de vieillissement et il est important de prendre cela en considération.
Pour autant, ce n'est pas la solution miracle ?
Alors, ce n'est pas la solution miracle, ça, je crois qu'il faut quand même insister là-dessus. Il y a de nombreux facteurs qui interviennent dans le processus de vieillissement chez l'homme, dans la vie de tous les jours, que ce soit le stress et la pollution. Et donc, on ne peut pas juste se dire qu'agir sur un paramètre va être la solution.
C'est même un sujet très controversé en science, cette affaire de restriction calorique. Parce que sur l'homme, en tous les cas, personne n'est d'accord pour dire qu'on pourrait obtenir les mêmes résultats que chez le primate, par exemple.
Alors, ce qu'il y a, mais même chez le primate, ça a longtemps été débattu, parce que ça, il y a un compromis qui se fait, c'est-à-dire que pour pouvoir s'adapter à une restriction calorique et vivre plus longtemps, l'organisme fait une sorte de compromis, et on peut toujours penser qu'il pourrait y avoir des effets néfastes, mais l'effet global est positif.
Bon, on va se mettre au régime, Catherine.
On va essayer.
Ça va nous faire du bien. On va toujours. Faut faire attention, cela dit. Ça, c'est peut-être une recommandation qu'on peut faire. C'est que, évidemment, ces messages-là, ils sont faits sous surveillance avec des scientifiques et il faut éviter, évidemment, chez soi, de le faire sans être tout à fait contrôlé parce qu'on ne connaît pas, évidemment, les effets de ces régimes stricts, quand même.
Absolument, absolument. Il faut être suivi et peut-être le faire sur des courtes durées, ça peut être bénéfique, mais bien évidemment, avec précaution.
Il faut poursuivre les recherches pour en savoir plus sur l'homme. En tout cas, résultat très intéressant là sur le primate, résultat que vous venez de publier dans cette revue qui s'appelle...
Communications Biology.
Merci beaucoup Catherine Decoppet, Fabienne Ojard, merci d'être passée aujourd'hui à la Une de la Science. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, un implant pour lutter contre la rétinopathie pigmentaire. C'est la solution trouvée par des chercheurs californiens. La rétinopathie pigmentaire, c'est une maladie génétique dégénérative de la rétine et des photorécepteurs de l'œil qui entraîne une perte progressive de la vision chez les personnes de plus de 50 ans. Pour développer cet implant, les chercheurs se sont servis de cellules souches d'épithélium pigmentaire, la partie qui dysfonctionne dans cette pathologie. Actuellement encore en essai, l'implant pourrait retarder la progression de la maladie, voire restaurer la vision. Les tests cliniques sont à ce stade encourageant puisque 4 des 5 patients qui ont testé l'implant l'ont toléré avec succès. Le centre de notre galaxie pourrait contenir des milliers de trous noirs. Des chercheurs américains affirment cette semaine avoir mis au jour la présence d'une douzaine de trous noirs stellaires qui se forment à la fin du cycle de vie d'une étoile. Jusqu'ici, ce n'était qu'une hypothèse, mais les chercheurs ont capté les signaux qui pourraient correspondre à ce type d'objet et ce grâce à la captation de rayons X très intenses émis lorsqu'un trou noir côtoie une étoile géante en fin de vie. Pour les chercheurs, les trous noirs stellaires détectés ne seraient que la partie émergée de l'iceberg. Et si leur hypothèse se confirme, ce ne sont pas 12, mais des milliers de trous noirs stellaires qui se nicheraient au centre de notre galaxie. Et puis les baleines boréales seraient de véritables compositeurs-interprètes. Selon une étude publiée par des chercheurs de l'Université de Washington, les individus mâles de cette espèce qu'on trouve au large du Spitzberg ont créé près de 200 chansons différentes en l'espace de 3 ans. Caractérisées par un large crâne brise-glace et une tache blanche sur le menton, cette baleine de 100 tonnes interpelle les chercheurs par l'originalité de son chant et de sa virtuosité. Chassée depuis le XVIe siècle, l'espèce est aujourd'hui en danger critique d'extinction.